9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
C'est en ce week-end qui s'annonce sympathique côté météo, du moins à Paris, que Maître Serran, avocat de son État, vous salue, auditrices et auditeurs. Je suis ravi de vous retrouver pour une petite heure ensemble au cours de laquelle vous pourrez poser toutes vos questions. Questions, je le rappelle, qui ne sont pas obligatoirement liées au sujet évoqué. Et aujourd'hui, le sujet sera, mon cher Philippe, roulement de tambour, s'il vous plaît, mon cher Philippe.
Alors, c'est un sujet qui pourrait se résumer à un acronyme.
L'OQTF.
Voilà, OQTF.
L'OQTF, l'un des sujets préférés de nos auditeurs, l'obligation de quitter le territoire. Autrefois appelé invitation à quitter le territoire, mais désormais on ne vous invite plus, on vous oblige à partir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, petit tour de l'actualité de la semaine. Et tout d'abord, un joyeux anniversaire au maître du Kremlin qui a eu 70 ans. Mais qui, tout maître du Kremlin qu'il soit, semble avoir un peu de mal à se faire obéir d'une partie de la jeunesse russe qui préfère déserter et fuir la Russie. Décidément, tout fout le camp. Il fut un temps où un soldat n'avait pas besoin de savoir pourquoi il partait au combat. Il partait, c'est tout, il obéissait, et obéir était le propre du soldat. Mais les temps ont changé. Internet, le téléphone portable sont passés par là. Aujourd'hui, ils ne veulent pas aller au front, mais qu'est-ce que c'est que ces soldats en carton qui mettent la chemin à Poutine et l'honneur de la patrie dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Quand je pense qu'il n'y a pas si longtemps, sous Brejnev, je parle même pas de Staline, le soldat qui s'autorisait un pet de travers se retrouvait au goulag. Aujourd'hui, les types se filment en se plaignant de leur matériel et de leur tenue. Ouais, on dort mal, on a faim. Oh, c'est la guerre, mon ami, tu veux quoi? Un 4 étoiles et un uniforme grand couturier pour aller combattre? Encore que dans l'histoire, on a vu des associations de couturiers et de soldats. Ben oui, mon cher Philippe, saviez-vous que l'entreprise Hugo Ferdinand Boss a, de 1931 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, fourni les uniformes militaires de la Wehrmacht aux jeunesses hitlériennes, aux SS, ainsi qu'aux chemises brunes. On a même dit qu'il fut le couturier préféré d'Hitler. Mais non, je vous dis, tout fout le camp, il n'y a plus le respect de la hiérarchie militaire. Et l'une des conséquences de cette guerre, c'est l'invitation insistante du gouvernement français à faire des économies d'énergie. Et oui, la France est en train de se tiers-mondiser. On nous annonce des coupures de courant. On vous invite à baisser drastiquement le chauffage dans nos maisons. On va même jusqu'à nous donner des conseils tout pourris tels que couvrir nos casseroles sur le feu pour conserver la chaleur, plus d'eau chaude dans les bâtiments publics. On demande aux magasins d'éteindre les enseignes lumineuses d'ici. Est-ce qu'on nous oblige à prendre des douches à l'eau froide? On n'en est pas loin. Et enfin, après avoir souhaité un joyeux anniversaire à Poutine, souhaitons un joyeux anniversaire au Front National, devenu le Rassemblement National. 50 ans, mon cher Philippe, 5 ans de moins que... de plus que moi, puisque, vous le savez, j'ai 45 ans et ma chevelure peut en témoigner. Fini le parti considéré comme raciste et qui avait été mis à l'époque en avant par un certain François Mitterrand qui, rappelons-le, fut le ministre de l'Intérieur durant la guerre d'Algérie et qui a mené l'une des politiques les plus répressives. C'est pas un hasard, hein, s'il est né à Jarnac, puisqu'à la fin on a fini par l'appeler affectueusement Tonton. Aujourd'hui, le Rassemblement National est un parti entre guillemets normal qui est le bienvenu à l'Assemblée Nationale. Alors question, le Rassemblement National est-il devenu moins raciste ou la société française est-il devenue plus raciste? That is the question. Méditez sur cette question, appelez-nous au 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de notre sage Monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Alors Maître Serran, est-ce que c'est pour commémorer tous ces anniversaires que vous êtes arrivé ce matin avec... des gâteaux?
Oui, c'est vrai.
Ah, c'est bien.
Ah ouais, j'avais pas fait le rapprochement.
Non, mais...
puisque moi, c'était spécifiquement pour vous et notre camarade Manu, mais ouais. C'est vrai que ça peut être inconsciemment lié, tout ça.
Voilà, il faut dire Ben Amri qui réalise cette émission, qui lui nous a apporté des pains au chocolat.
Absolument.
Pour s'occuper de notre, ouais, de notre ligne. Maître Serran est allé chez Cyril Lignac.
Ouais.
Ouais.
Eh ben, c'est...
rue Fédère, là, à côté de chez Fatemal, qui fait un très bon couscous.
Et juste à côté, il y a sa chocolaterie, ouais. Cyril Lignac, et c'est très sympa. Ces gâteaux sont quand même assez extraordinaires.
Vous qui êtes super difficile.
Ouais, ouais, ouais. Ah, alors, j'ai découvert un truc, et ce qui est vrai, c'est-à-dire que j'ai toujours détesté les tartes au citron, mais détesté, c'est-à-dire que ça m'était insupportable. Et puis là, d'abord, ne serait-ce que la présentation, c'est pas un hasard si on dit on mange d'abord avec les yeux,
ouais.
Donc, ne serait-ce que la présentation, elle est extraordinaire, et j'ai trouvé le goût merveilleux, c'est-à-dire que moi qui n'ai jamais mangé, tout cas jamais apprécié les tartes au citron. Et eh ben là, je m'y suis mis et je l'ai trouvé extraordinaire.
Tiens, vous avez une vie, maître Serra.
Ouais, ouais, ouais.
Bien, alors on va parler de cette fameuse obligation de quitter le territoire, l'OQTF en français. Alors, c'est vrai qu'elle peut, comme vous le dites, être interprétée de diverses façons, mais finalement, est-ce qu'elle est appliquée encore aujourd'hui ?
Alors, c'est le grand souci des autorités françaises, en vérité. C'est-à-dire que l'obligation de quitter le territoire, juridiquement, d'abord, elle existe, elle devrait être appliquée, appliquée de manière, entre guillemets, c'est la volonté des politiques et des autorités policières et judiciaires, appliquée de manière, entre guillemets, un peu plus musclée. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que, quand on entend dire, mais on a beaucoup d'OQTF qu'on ne peut pas concrétiser... On va le rappeler, hein, l'OQTF, c'est je vous interpelle, vous n'avez rien à faire sur le territoire français, vous êtes entré en situation irrégulière, ou alors vous avez demandé le renouvellement de votre titre de séjour et je vous le refuse, ou votre récépissé arrive à expiration et puis moi, autorité préfectorale, j'ai pas envie d'étudier votre dossier, je vous invite, enfin je vous oblige, avant c'était l'invitation, maintenant c'est l'obligation, je vous oblige à quitter le territoire, donc on part du principe que si je vous demande de quitter le territoire et vous disposez d'un délai de 30 jours, on part du principe que vous devez quitter le territoire français. On est dans un état de droit, donc vous pouvez faire toute une série de recours, vous pouvez saisir à nouveau le préfet, on appelle ça un recours gracieux.
Alors, oui. Alors c'est intéressant, c'est que cette invitation, hein, cette obligation à quitter le territoire français, c'est ce qu'on appelle un arrêté préfectoral. Pourquoi est-ce que c'est un arrêté préfectoral ?
C'est le préfet qui a compétence en la matière, et on a aussi une compétence ministérielle quand on considère que vous présentez un danger particulier. Alors, je veux dire, le plus souvent, on prend comme exemple en matière de terrorisme. Là, on considère que le ministre est en capacité de vous demander de partir, de dégager du territoire français. Mais sinon, c'est une compétence préfectorale. Donc, c'est le préfet qui va examiner d'abord votre demande de titre de séjour, si vous formalisez une demande de titre de séjour, qui a compétence pour examiner le renouvellement de votre titre de séjour et qui a compétence pour vous demander de quitter le territoire français. Donc vous pouvez revenir devant le préfet. C'est-à-dire, il vous demande de partir, vous pouvez lui dire, écoutez, réexaminez mon dossier. Vous pouvez essayer, on va dire, de court-circuiter le préfet et de vous adresser au ministre de l'Intérieur pour dire, écoutez, il y a votre préfet qui veut pas, est-ce que vous pouvez réexaminer mon dossier ? Mais le meilleur des recours est le recours devant le tribunal administratif. On a une particularité. Quand vous saisissez un tribunal administratif, le document, l'arrêté préfectoral qui vous demande de quitter le territoire, il est suspendu. C'est-à-dire, je ne peux pas vous mettre dans un avion, je ne peux pas vous placer dans un centre de rétention tant que le tribunal n'a pas rendu sa décision.
Mais donc ça le suspend.
Ça le suspend. Sauf que un tribunal, quand il va vite, il met à minima une année. Donc ça veut dire que l'intéressé continue de vivre sur le territoire français. Souvent, il bosse, alors pas déclaré, mais il travaille. Parfois, entre-temps, il s'est marié. Parfois, entre-temps, il a eu un enfant. Donc, c'est ça qui est aussi, entre guillemets, terrible. C'est-à-dire qu'on vous demande...
Mais alors, est-ce que s'il s'est marié et qu'il a eu un enfant, est-ce qu'on peut lui délivrer une OQTF ?
On peut vous délivrer une OQTF si vous êtes marié et si vous avez un enfant, parce que d'abord... très souvent, les autorités préfectorales considèrent que si vous êtes marié, on reviendra sur l'histoire de l'enfant, si vous êtes marié, c'est peut-être artificiel. C'est-à-dire, en gros,
j'ai vu sur les textes que si vous étiez marié depuis plus de 3 ans, ça suspendait l'OQTF.
Voilà, il y a un timing à respecter. Ouais. C'est-à-dire que vous avez une OQTF et puis vous allez vous marier le lendemain ou le surlendemain, on va considérer que tout ça est artificiel. Maintenant, on a effectivement des personnes qui se sont mariées il y a bien longtemps et qui sont protégées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur demander de quitter le territoire. Alors on va vérifier cette histoire de mariage, si il y a une vie commune ou pas, mais c'est vrai que vous êtes protégé. Vous êtes protégé aussi si vous avez un enfant. Enfin, j'allais dire, on conseille, c'est terrible de dire ça, mais souvent, quand on a des personnes qui nous disent, écoutez, j'ai un projet de mariage, la première question qui est posée est de savoir si vous avez marié avec une personne de nationalité française ou pas. Il m'est arrivé parfois de dire, bon, bah écoutez, c'est une bonne chose, une fois que vous vous mariez, revenez me voir, et vous apprenez que l'intéressé s'est marié avec une personne qui n'avait pas de papier aussi. Donc, c'est-à-dire, vous avez bien compris.
Oui, l'intérêt ouais, voilà. juridique est moins intéressant.
Voilà, ouais. on est d'accord, quitte à se marier, oui. Autant se marier, autant que faire se peut avec une personne de nationalité française. C'est-à-dire, dans la hiérarchie, c'est mieux. Après, c'est la personne qui a un titre de séjour. Mais se marier avec une personne qui, elle-même, est en situation irrégulière, à part vous compliquer la vie fois deux, ça ne sert à rien.
Alors, j'ai vu également que pour pouvoir exécuter l'UQTF, il fallait un laissez-passer consulaire qui soit délivré par le pays d'origine du ressortissant. Donc, ce qui veut dire que si le pays, votre pays, enfin, ne vous délivre pas ce document, on peut pas vous expulser.
C'est exactement ça. C'est toute la difficulté que connaissent les autorités françaises. Hein, et il y a eu beaucoup de démissions où on a évoqué ce problème-là. Et la difficulté, c'est que je vais vous demander de quitter mon territoire, de quitter le territoire français. Donc, si vous êtes algérien, si vous êtes marocain, tunisien, peu importe votre nationalité, je dois demander à votre consulat un laissez-passer, c'est-à-dire que je vais contacter l'autorité consulaire en disant, écoutez, voilà, on veut expulser Monsieur X, Madame Y. Alors, de deux choses l'une, vous avez des autorités consulaires qui, on va dire, collaborent en disant, bon, ben, je reconnais cet individu comme étant citoyen de mon pays, et donc voici le laissez-passer, et à partir de là, s'il y a un avion à disposition, je vous mets dans cet avion. S'il n'y a pas d'avion, je vous place dans un centre de rétention le temps que qu'on s'organise pour vous renvoyer au pays. Mais on a aujourd'hui des pays qui freinent au niveau de la reconnaissance d'abord de la nationalité. C'est-à-dire que vous avez des pays qui disent, écoutez, je le reconnais pas comme Algérien, je le reconnais pas comme Marocain, donc c'est très compliqué pour les autorités françaises. Et puis vous avez des pays qui reconnaissent le citoyen, mais qui refusent de délivrer un laissez-passer. Et si je ne délivre pas de laissez-passer aux autorités françaises, je ne peux pas vous expulser. Je ne peux pas vous mettre dans un avion et vous envoyer à destination de ce pays. Donc ça bloque tout simplement.
Alors aujourd'hui, concrètement, le Maroc, l'Algérie jouent le jeu ou pas?
Alors, il y a un pays qui refuse systématiquement de délivrer ses laissez-passer. Et depuis toujours, d'ailleurs, c'est le Mali. C'est-à-dire que pour expulser une personne de nationalité malienne, il fallait se réveiller de bonne heure. Aujourd'hui, l'Algérie et le Maroc, alors ils jouent le jeu de par intermittence. C'est-à-dire, c'est plus l'aspect politique qui joue.
Ouais,
c'est-à-dire qu'en fonction de l'ambiance avec les autorités françaises, il y a ce petit jeu-là. C'est-à-dire que si les relations sont apaisées, l'Algérie et le Maroc peuvent délivrer des laissez-passer, mais s'il y a des tensions entre les pays, c'est vrai que ces pays du Maghreb jouent là-dessus. Mais c'est un effet pervers aussi. C'est-à-dire que, alors d'abord, ils refusent de prendre parce que souvent vous avez des délinquants aussi. C'est-à-dire que le type
oui,
a été.
Pas pourquoi on est à accueillir chez soi.
Le raisonnement étant de dire d'accord, c'est un citoyen algérien, marocain, peu importe, mais il a fait une bêtise en France. Pourquoi je vais récupérer cette personne chez moi? Donc, on considère qu'on n'a pas à récupérer ces personnes problématiques dans le pays d'origine. Mais il y a un effet pervers. Et les autorités françaises ont menacé les pays du Maghreb en disant, bah si c'est comme ça, on va limiter la délivrance des visas. Donc c'est-à-dire que les personnes de bonne foi qui veulent venir sur le territoire français subissent ces conséquences-là.
Quelle est la durée de validité d'une OQTF?
Alors, c'est une année. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que si au bout d'un an et un jour, je vous ai interpellé, je ne peux pas vous renvoyer au pays ou dans un centre de rétention sur la base de ce document. Mais ce qui se passe, c'est que je vous interpelle, je vois que sur mon écran, vous aviez une OQTF, effectivement, elle n'est plus en cours pour pouvoir vous expulser. Eh ben, moi, policier, gendarme, je vais contacter la préfecture, et la préfecture va m'envoyer par mail une nouvelle OQTF.
D'accord.
Donc on n'est pas protégé.
Il ne faut pas croire qu'au bout d'un an,
voilà,
on est protégé.
Souvent, je l'entends. J'ai des personnes qui me disent, j'ai une OQTF, mais il y a plus d'un an, je suis tranquille. Non, on n'est pas tranquille. Si je vous interpelle, vous aurez une nouvelle OQTF au moment de l'interpellation.
Maître Serran répond à vos questions juridiques. Le standard de C'est tout droit est à votre disposition. 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Et le samedi, on parle de droit avec Maître Mourad Serhan, 9h-10h. Notez bien ce nouveau rendez-vous tous les samedis. Vous pouvez poser vos questions juridiques à Maître Serhan sur tous les sujets de droit, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de poser une question sur le sujet du matin, qui est l'obligation de quitter le territoire français, l'OQTF. Je vous rappelle le numéro du standard, 01 53 48 3000, si vous voulez poser une question à Maître Serhan. 01 53 48 3000. Aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup moins peur, Maître Serhan. Qu'est-ce qui vous arrive?
Écoutez, pour des raisons assez mystérieuses. Je suis en train de manger un pain au chocolat, j'ai réussi à me mettre du chocolat sur l'épaule, je sais pas.
Ah, mais sur l'épaule.
Oui, je sais pas. Comment, quand même. Comment c'est possible? Bon, écoutez, c'est pas grave.
Vous avez bavé?
Bah non, carrément.
Ah bah non, bah si, c'est de la bave de chocolat.
Non, mais je peux pas me l'expliquer, mais c'est pas...
J'ai non,
pas
non, bavé. C'est intéressant. Bon, bah, vous expliquerez à vos clients qui viendront voir ce matin que vous avez bavé du chocolat sur l'épaule gauche. Donc, bien, alors
donc, vous disiez.
C'est vrai qu'on peut faire l'objet de plusieurs OQTF, il n'y a pas de limite finalement.
Ah, la chose entre guillemets extraordinaire, c'est ça, c'est-à-dire que on a très souvent des personnes qui se voient notifier une OQTF, on la conteste devant un tribunal administratif, voire même parfois devant une cour administrative d'appel. Les deux juridictions donnent raison à la préfecture, rien vous interdit par la suite de redéposer un nouveau dossier. C'est-à-dire que quand vous suivez le parcours de certaines personnes qui atterrissent au cabinet, elles ont parfois déposé une, deux, trois, quatre demandes de régularisation et puis elles se sont vues notifier autant d'OQTF. Après, le parcours parfois évolue. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui se présentent comme célibataires, on leur refuse le titre de séjour, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, deux ans, la personne s'est mariée, la personne a eu un enfant, donc c'est vrai que ce qu'on appelle les éléments nouveaux vous permettent à nouveau de ressaisir les autorités préfectorales, si évidemment vous échappez à l'expulsion, comme on dit, manu militari. Mais pour rassurer les personnes, parce que souvent on me dit, quand on reçoit une OQTF, est-ce que la police débarque au domicile.
C'est-à-dire que, est-ce que demain, on va les voir venir nous chercher à la maison avec des menottes et nous mettre dans l'avion? Voilà. Donc c'est un peu la vieille image.
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et certains, vous en parlent, on sent la boule au ventre et leur peur. Donc non, c'est-à-dire qu'on va vous notifier l'OQTF, c'est-à-dire vous allez la recevoir par voie postale, en lettre recommandée avec accusé de réception. Et même si vous n'avez pas quitté le territoire dans ce délai de 30 jours, la police ne débarque pas chez vous au bout du 31e jour pour dire il faut partir. Ce qui peut se passer, c'est que si vous êtes contrôlé et qu'effectivement on constate qu'il y a une OQTF sur vos épaules, on peut évidemment vous placer dans un centre de rétention, mais voilà, on vient pas casser la porte pour vous mettre dans un avion, hein, ça se passe pas comme ça.
Mais ça s'est déjà passé comme ça ou pas?
Non,
elle vient d'où cette image?
Non, les seuls dossiers entre guillemets où ça peut se passer comme ça, c'est si en parallèle vous êtes recherché pour autre chose, pour une infraction pénale lourde en plus. Mais simplement, on va dire avec des guillemets, pour des histoires de papier, la France n'envoie pas le GIGN chez vous, voilà, pour défoncer la porte et vous mettre dans un avion, ça n'existe pas.
Alors, il y a une mesure qui a été prise il y a quelques années, et ce qu'on appelait l'aide volontaire au départ, et donc qui donnait entre 3 et 1200 euros à la personne qui acceptait de partir de son plein gré.
Oui, alors ça existe toujours.
Ça existe toujours.
Oui, ça existe toujours.
Vous connaissez des gens qui ont accepté ça?
Non. C'est-à-dire que, alors la France est généreuse, c'est-à-dire qu'on vous propose...
Entre 300 euros et 1200 euros.
On vous propose ça plus votre billet d'avion, c'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens d'acheter votre billet d'avion, c'est la France qui...
Mais qui est qui paye le billet d'avion d'ailleurs en cas d'OQTF?
Alors d'abord, c'est à vous de le faire, c'est-à-dire que c'est le premier concerné qui a 30 jours pour s'organiser et qui doit partir. Mais si vous n'êtes pas parti, si je vous ai interpellé, si vous êtes placé dans un centre de rétention et puis si demain il y a un avion, c'est l'État qui va payer le billet d'avion et vous serez, comme dirait l'autre, escorté. C'est-à-dire qu'on paye aussi une place d'avion pour deux personnes, deux gendarmes en règle générale.
Ah oui, c'est pas tout seul.
Ah non, voilà, non, on va vous accompagner. Et puis si vous jouez, c'est arrivé parfois, entre guillemets, l'excité dans l'avion. Alors, il fut un temps où même le commandant de bord tolérait, on va dire. Alors, dans un premier temps, il tolérait, même le type est un peu excité, on lui mettait les menottes et puis on essayait de le calmer. Maintenant, les commandants de bord refusent, c'est-à-dire que le type qui est trop excité dans l'avion, il refuse de l'embarquement et puis on demande à l'intéressé, au policier, de sortir.
Alors, Mustapha est au 01 53 48 3000. Bienvenue, Mustapha.
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour tout seul.
Merci. Ah, bonjour Philippe, bonjour Mastéral.
C'était facile.
Oui, bonjour
facile.
Mustapha.
C'était tentant. Ouais. Vous nous appelez d'où, Mustapha, ce matin?
De Gennevilliers.
Très bien. Est-ce que vous êtes content d'entendre Maître Serran le samedi?
Ah, franchement, ouais. Franchement, tous les samedis, je l'écoute.
Merci, Mustapha. Et j'attendais avec impatience l'appel de Mustapha.
Non, moi aussi. Voilà. Cousin Mustapha.
Ah, bah, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé.
Exactement.
Nickel. Bah, ma question, en fait, c'est pas par rapport au kit, le kit de.
Bien sûr. En fait, voilà, il y a pas de difficulté.
Ça n'a rien à voir. En fait, juste parce que je suis parti voir un ami le week-end dernier dans le Nord. Et ma question, elle concerne le contrat de mariage.
Ouais.
Voilà, donc est-ce que le contrat de mariage, on peut le faire même après le mariage ou juste le jour même de la mairie, quoi?
Alors, il est fortement conseillé de faire d'abord son contrat de mariage et d'aller se marier ensuite, puisque vous serez marié sous le régime de la séparation de biens. Il arrive parfois que les personnes se soient mariées sous le régime de la communauté. C'est-à-dire que si madame achète quelque chose ou monsieur achète quelque chose, ça appartient aux deux. Et pour des raisons professionnelles, on va dire, souhaiterait donc qu'il y ait un contrat de mariage. Mais dans ce cas, vous êtes obligé d'engager une procédure devant le tribunal judiciaire. C'est-à-dire c'est un tribunal qui va examiner les raisons pour lesquelles vous voulez changer de régime matrimonial. Donc ça nécessite une procédure. Donc
mais, il vaut mais mieux. Possible.
Ah oui, c'est possible,
c'est
bien
possible.
Sûr.
Ouais.
Bien sûr, c'est possible.
D'accord.
Mais idéalement, il vaut mieux évidemment avoir son petit contrat de mariage avant. Bah, comme ça, il n'y a pas besoin de faire des démarches supplémentaires.
D'accord, ok, bah c'est bon.
Voilà, Mustapha, vous avez un projet de mariage?
Non, c'est le copain.
Non, en fait, lui, il n'avait pas fait son contrat de mariage.
Ouais.
Après, il a fait sa société, donc ça a bien marché pour lui. Ah. Donc après, je lui ai dit, je ne sais pas si on peut le faire après le mariage. C'est ça que, parce qu'après,
il
m'a dit, on
ne
sait jamais si au niveau de la société, il y a souci ou un truc comme ça. Il m'a dit que je ne veux pas que les enfants et sa femme, elles payent.
Oui, c'est vrai.
C'est conneries, quoi.
C'est vrai, mais vous savez, c'est très. C'est assez compliqué. Quand vous avez un projet de mariage, de dire à celle ou à celui qui va devenir votre moitié, de dire on va faire un contrat de mariage. C'est-à-dire que c'est parfois mal interprété.
Ça veut dire tu ne me fais
c'est
pas.
Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que et là Mustapha a raison. Juridiquement, ça protège. Vous voyez, si demain la société fait faillite, s'il y a des difficultés, c'est pas le patrimoine de la famille qui sera en danger. Mais c'est vrai que c'est très compliqué d'expliquer ça à sa moitié, de dire c'est pour ta sécurité. En règle générale, on considère que tu me fais pas confiance. Alors pourquoi on se marie? Donc il y a une vraie bataille là-dessus. Mais juridiquement,
déjà,
sincèrement, ça peut protéger.
Excuse-moi de vous couper. Même un contrat de mariage déjà à la base, moi je trouve ça un peu louche. Déjà, on arrive avec une intention de faire un contrat de mariage, c'est pas très.
C'est ce que vous étiez en train de dire. Je monte une société, si demain ma société fait faillite, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut que toute la famille plonge parce que ma société ne fonctionne pas, ou alors que ma société plonge, mais le patrimoine familial reste protégé. Donc c'est une vraie question, mais psychologiquement il y a cette étape à passer et c'est parfois très compliqué.
Il y a aussi quand dans un couple il y a une grande différence de patrimoine.
Bien sûr.
Les deux époux, il y en a un qui veut protéger son patrimoine pour des tas de raisons.
Mais légitimement en plus. Vous voyez, il y a rien de tordu dans l'histoire, mais c'est vrai que psychologiquement c'est compliqué à faire comprendre.
Ok, bah écoutez, bah c'est bon que c'est possible.
Tout à fait, monsieur.
C'est possible avec une saisine du tribunal au préalable.
Ça marche. Merci beaucoup.
C'est
merci à vous,
Mustapha, pour votre question.
Merci.
Bon week-end, Mustapha.
Merci beaucoup à vous. Bon week-end.
Mais on peut accueillir Anan, non? Oui, on a le temps. On accueille Anan. Anan, bonjour et bienvenue. Anan.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous? Excusez-moi, j'ai une voix de réveil. Je venais me suis levée pour écouter votre émission. Désolé.
Désolé.
Encouragé.
Exactement.
Ah oui, oui, généralement, je vous écoutais le vendredi. Et puis là, je vous entends le samedi, je suis encore plus tranquille, donc c'est génial.
Anan, quelle est votre question à Maître Serran?
Alors, ma question pour Maître Serran, comment allez-vous, Maître Serran?
Bah écoutez, parfaitement, Anan, moi je vais très bien. Et ça me fait plaisir ce que vous dites, puisque ça veut dire que vous nous suivez régulièrement. On passe du vendredi au samedi, donc vous êtes attentive à notre intervention.
Tout à fait, voilà. Exactement.
Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous tracasse ?
Alors non, moi rien ne me tracasse, tout va bien autour de moi. Simplement, j'avais une question pour une personne qui avait un problème au niveau de ses papiers. Cette personne a déposé en fait un recours auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis pour voir ses papiers. Or, il a un gros problème. C'est le fait qu'il n'a pas pu avoir de rendez-vous. Ni lui, ni son avocat, ni personne. Et je voulais savoir s'il y avait une autre procédure à faire pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis.
Alors, c'est l'éternel problème depuis quelques années. C'est-à-dire qu'il fut un temps où vous pouviez physiquement vous présenter. Alors, c'était le temps où tout le monde faisait la queue, qui fasse froid ou qu'il pleuve, mais on faisait la queue, mais au moins... On aboutissait à obtenir un rendez-vous. Temps est révolu puisqu'on vous demande de prendre rendez-vous maintenant via Internet. Pour être tout à fait honnête, ça a bien fonctionné hein, pendant quelques mois, parce que c'est un système qui existait déjà en Italie, donc ils s'en sont inspirés, ça a bien fonctionné. Et puis, pour des raisons assez mystérieuses, il est devenu quasi impossible, et quelles que soient les préfectures, il est devenu quasi impossible d'obtenir un rendez-vous, puisque quand vous vous connectez, donc on vous dit que tous les rendez-vous sont pris, et puis reconnectez-vous. Alors face à cela, il y a deux choses. Soit vous considérez qu'on est, entre guillemets, dans une situation d'urgence. Alors l'urgence, c'est pas l'urgence de monsieur et madame tout le monde, mais imaginons quelqu'un qui a besoin de se soigner sur le territoire français, c'est-à-dire il est en France et puis il a des gros problèmes de santé, il est en situation irrégulière, il faut quand même qu'il fasse en sorte de pouvoir régulariser sa situation. Donc si vous essayez de prendre des rendez-vous via Internet, je vous invite à faire des copies d'écran, à imprimer ces feuillets où on vous dira, écoutez, essayez de vous reconnecter, et vous pouvez saisir, alors là, si c'est sur la Seine-Saint-Denis, ce sera le tribunal de Montreuil. Non, c'est le, voilà, voilà, si c'est, voilà, si c'est la préfecture de Bobigny, c'est le tribunal administratif de Montreuil, et vous pouvez le saisir en référé. Le référé, c'est une procédure d'urgence. Et c'est pour expliquer aux magistrats que vous avez une situation particulière, que vous demandez un rendez-vous depuis X temps et que il y a pas de rendez-vous. Et dans ce cas-là, c'est le juge qui va obliger la préfecture.
Alors, Anan, en parlant d'urgence, vous allez rester avec nous parce qu'on a la pub. Alors, c'est vrai que la pub, c'est jamais urgent.
Je comprends. Il faut faire rentrer l'argent.
Mais voilà. Hein, okay. Si vous voulez que Maître Serran soit payé à la fin du mois, il faut faire partir.
D'accord. Vous avez raison.
L'expliquez comme
mais
ça.
Mais vous restez avec nous. On vous reprend dans un instant, Anan.
Je les attends.
Merci.
AVS revient dans un instant. Heure FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Et ça, c'est ce qu'on appelle une courte page de publicité, ouais, hein, ouais. Maître Serran. J'ai cru que j'allais pas vous reconnaître entre le début de la pub et la fin. Alors, nous avons Anan qui vous appelle de Créteil, hein, Maître Serran. Vous êtes toujours là, Anan ?
Je suis toujours là.
Merci de votre grande...
J'espère que l'argent est bien rentré.
Ah bah, là, on est tranquille. Maître Serran est refait jusqu'à la fin de l'année.
D'accord. Vous allez continuer à véhiculer cette légende.
C'est vrai, je sais.
Ouais, d'accord.
Bon, bah,
d'accord.
Les légendes ont la vie dure, Maître Serran.
Oui, c'est vrai. Alors, Anan, on en était à dire que vous réussissez pas à obtenir un rendez-vous, vous pouvez ensuite, une fois que vous faites des copies d'écran, saisir le tribunal administratif en référé. C'est une procédure d'urgence, l'avocat n'est pas obligatoire, mais il va falloir justifier de votre urgence. Et si le tribunal considère qu'effectivement vous devez être reçu rapidement par les autorités préfectorales, il va obliger la préfecture à recevoir votre ami. Donc ça, c'est la procédure, on va dire, classique. Si on considère qu'il n'y a pas d'urgence, encore une fois, souvent l'urgence, c'est le côté médical. Si on considère qu'il n'y a pas d'urgence, vous pouvez saisir les autorités préfectorales avec la bonne vieille lettre recommandée avec accusé de réception.
Réception, d'accord.
Et à partir du moment où c'est réceptionné par les autorités préfectorales, vous calculez un délai de 4 mois. Et si au bout de 4 mois, il n'y a pas de réponse, on considère que c'est un refus implicite, ce qui vous autorisera à saisir le tribunal administratif. Et pareil, dans ce courrier à la préfecture, vous justifiez que vous avez d'abord essayé de prendre rendez-vous via Internet.
D'accord. Mais bon, on va partir sur le fait que cette personne-là, elle travaille en France. Ça fait 5 ans qu'elle a ses fiches de paye, même plus de 5 ans qu'elle a des fiches de paye, qu'elle paye les impôts et tout. Donc, moi, ma question, c'était, il n'y a pas une autre solution?
Non.
que ça.
Non, il n'y a pas d'autre option. L'interlocuteur, le seul interlocuteur de ce type de dossier, voilà, c'est la préfecture. Et souvent, on me dit, est-ce qu'on peut aller devant le tribunal ? Oui, on peut y aller, mais après avoir saisi la préfecture. Alors, soit la préfecture ne répond pas, soit la préfecture a vous dit non, et puis on vous notifie ce qu'on disait ce matin, une obligation de quitter le territoire. Mais il n'y a pas d'autre option. Vous êtes obligé de suivre ce circuit.
D'accord, je suis obligé de passer. Obligé, moi, non, mais la personne est obligée de passer.
Absolument.
Par cette procédure. D'accord, écoutez, pour ma part, c'est bien entendu. Je vais lui faire passer le message, comme ça, il saura ce qu'il doit faire.
Et cette méthode est valable pour tous ceux qui nous écoutent, bien sûr. Et qui n'arrivent pas à obtenir de rendez-vous avec la préfecture de Seine-Saint-Denis.
Parce que c'est vrai.
Surtout la préfecture de Seine-Saint-Denis.
Écoutez, ils n'ont pas le monopole de ce genre de situation, je vous assure. C'est-à-dire que quand on a un client qui nous appelle pour nous dire qu'il a réussi à obtenir un rendez-vous, on est les premiers surpris, nous, en qualité d'avocat. C'est très, très compliqué.
Anan, merci.
Mais je vous en prie, merci à vous. Merci.
Gros bisous, Anan. Restez fidèles à Maître Sérone le samedi matin entre 9h et 10h sur Beurre FM. Et c'est Fatia. On change de département avec Fatia. Oui. Bonjour Fatia.
Oui, bonjour Maître, bonjour Philippe.
Bonjour Fatia.
Bienvenue Fatia.
Merci beaucoup. Donc déjà en premier lieu, je tiens à vous remercier pour votre émission qui est vraiment très très importante et intéressante.
Merci Fatia, ça fait plaisir d'entendre ça.
Voilà, et puis deuxièmement, je parle à la place d'une personne qui a du mal à s'exprimer en français. Elle m'a chargée de poser cette question.
Ben allez-y, posez la question.
Donc, cette personne, elle est en 9 ans de divorce, avec 2 enfants, et ils doivent partager tout ensemble. Et cette personne, elle a des biens au Maroc. Et on lui a demandé de donner une liste des biens qu'elle a au Maroc pour pouvoir partager ce bien entre les deux.
D'accord. Alors, la personne qui a des biens, c'est votre amie ? C'est elle qui a des biens au Maroc ?
Oui.
Est-ce que les biens sont exclusivement au nom de votre amie ou pas ?
Si, à son nom.
Ben, alors, d'abord...
Ils avaient un contrat ou pas ?
Alors, si, ils se sont mariés au pays ?
Non, ils se sont mariés ici en France.
Ils se sont mariés en France, mais les biens de madame sont exclusivement à son nom.
Les biens, c'est de monsieur.
Et ah, d'accord, d'accord. Donc, ce sont des biens de monsieur. Exclusivement au nom de monsieur.
Exactement.
Alors, la difficulté qui va se poser est la suivante. C'est-à-dire que, en principe, effectivement, on doit communiquer la liste des biens à la partie adverse, sous réserve, évidemment, d'être de bonne foi. C'est-à-dire qu'en vérité, il n'y a rien qui, techniquement, obligerait monsieur à faire le nécessaire. Et si monsieur veut pas communiquer la liste des biens qu'il a au pays, madame va être dans l'obligation de prouver tout ça. C'est-à-dire qu'il arrive parfois, c'est très souvent comme ça, que madame n'a jamais été chez le notaire au pays, elle est pas informée du lieu où se trouvent les documents du bien. Donc quand c'est comme ça, les avocats conseillent évidemment de pas se tirer une balle dans le pied. Et si monsieur venait me voir, je serais le premier à lui dire, écoutez, si madame peut pas prouver que ce bien appartient, enfin vous l'avez acheté ensemble, ne fournissez aucun document. Donc, parce que le juge, encore une fois, il peut demander, enfin l'avocat de la partie adverse peut dire, attendez, il y a des biens au pays, on aimerait les documents, mais l'avocat de monsieur n'est pas obligé de...
Demandé, excusez-moi de vous interrompre, maître, mais c'est ce qu'il avait demandé, et même dans le jugement... C'est écrit, monsieur, vous êtes en accord avec, alors qu'il n'a pas donné du tout son accord, avec votre épouse, vous devez aller chez un notaire et payer 3000 euros pour pouvoir que le notaire fasse le nécessaire.
Ah non, mais là, madame, c'est-à-dire que si dans les documents communiqués par l'avocat à la partie adverse ou au tribunal, rien n'a été communiqué dans ce sens-là, je vois mal comment un magistrat pourrait mettre ce genre de formule. C'est-à-dire que le juge, il prend en considération les éléments qu'on lui a communiqués. Mais un juge, voilà, ne s'il a aucun élément qui aurait été versé, ne peut pas dans son jugement considérer que monsieur aurait, par magie, ou son avocat aurait communiqué les pièces. C'est dans ce cas-là que l'avocat a dû communiquer les pièces. Après, je veux bien que si la décision manifestement n'est pas favorable à monsieur...
Non, il allait communiquer, il n'y a rien donné.
Madame, écoutez-moi, je suis avocat moi-même. Ce ne serait pas sérieux de dire que par définition, l'avocat ne se plante pas ou l'avocat est l'individu le plus vertueux du monde. Je dis simplement, mais ça c'est le droit, que si un juge... Dans une décision, il note un document où il rédige une démonstration qui prouverait que des documents ont été remis, c'est que l'avocat de l'intéressé a remis ces documents. Le juge ne s'amuse pas à noter quelque chose qui ne serait pas au dossier. Faut le savoir.
Exactement.
Voilà. Après, il se peut aussi, encore une fois, ce serait pas sérieux de dire que l'avocat, par définition, est l'individu le plus vertueux du monde. Mais il se peut que l'avocat ait transmis ses documents et il a pu se rendre compte que c'était peut-être une bêtise. Et pour essayer d'adoucir les choses en disant à son client, écoutez, je comprends pas, le juge a mis ça malgré l'absence de documents. C'est faux. Le juge, il ne note pas des choses qui n'auraient pas été évoquées ou transmises par l'avocat.
C'est vrai, la logique dit comme ça, oui. Oui,
je suis d'accord. Donc c'est moins le juge qui serait fautif, entre guillemets, que l'avocat de l'intéressé.
Oui. Et le monsieur, est-ce qu'il a le droit de refuser et d'aller chez le notaire pour se mettre d'accord avec son épouse
Alors d'abord, quand on n'est pas content d'une décision, on peut la contester. Oui. Alors sous réserve qu'il soit dans le respect du timing de l'appel.
Oui,
premier point. Ensuite, on privilégie toujours l'arrangement amiable. C'est-à-dire que s'il peut y avoir un arrangement entre monsieur et madame, même si c'est pas conforme à la décision de justice, il n'y a pas de problème. Mais encore faut-il l'accord de madame.
Non, ils s'entendent pas du tout.
Ah quand on s'entend pas, c'est le propre d'un procès, c'est le jugement qui doit être appliqué à la lettre.
Voilà, écoutez, maître, c'est compris, je vous remercie infiniment, maître.
Merci à vous pour votre appel.
Précise. Voilà, je vous remercie, bonne journée, messieurs, au revoir.
Merci, Fatih. Alors, on n'a pas le temps de prendre un nouvel auditeur, maître Serran. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas pu poser leurs questions aujourd'hui, ils ont toujours la possibilité de vous appeler sur votre téléphone portable.
Absolument.
C'est vers le samedi, il faut le dire.
À partir de 12h, on va dire.
Ah bon,
comme ça. Ouais, parce que là,
à l'heure du déj.
Ouais, je suis pas en rendez-vous. Oui, mais moi je déjeune jamais, vous le savez.
C'est vrai.
Donc je suis joignable au 06 62 58 59 64 06 62 58 59 64.
Alors vous avez une adresse mail également pour ceux qui voudraient vous solliciter par mail.
Absolument.
Si vous voulez aussi proposer des sujets d'émission à Maître Serran, utilisez cette adresse-là.
N'hésitez pas. Donc c'est maître, alors MAI, pas d'accent circonflexe, TRE point Serran, SERHANE. @gmail.com
voilà.
maître.serran@gmail.com
si vous voulez qu'on fasse le tour ou qu'on examine certains sujets.
Ouais, faut pas hésiter, bien
samedi,
sûr.
Avec beaucoup de plaisir. Maître Serran, dans un instant, c'est l'imam Abdelali Mamoun qui sera là pour l'islam au présent. On l'attend d'ailleurs, l'imam.
Bah oui. Son déménagement, c'en est où alors?
C'est fini ou pas? Non, on entame le troisième mois.
Ah ouais, c'est long quand même. On aurait dû peut-être l'aider aussi. C'est... On a été ingrat sur ce coup-là.
Ça, c'est vrai. C'est les gens qui disent après.
Non, mais c'est ça. Ouais.
Tu sais, ceux qui terminent les travaux qui sont déjà finis.
C'est vrai, ouais. L'inspecteur des travaux finis. Mais c'est vrai qu'on aurait pu lui proposer de l'aider quand même.
C'est vrai?
Fissabilla.
Mince.
On va lui dire, ça va lui faire plaisir.
L'islam au présent, c'est dans un instant.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.